Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment ChatGPT va-t-il utiliser les données de ses usagers pour créer des pubs personnalisées? Un texte de Marieke Glorieux-Strachmann, publié le 1er mai 2026 dans Le Devoir. La mise à jour de la politique de confidentialité d'OpenAI détaille le partage des données avec des annonceurs. Que devraient savoir les utilisateurs de ChatGPT sur la manière dont leurs données seront partagées avec des annonceurs pour leur présenter des publicités ciblées? Le Devoir fait le point avec un expert. Au début du mois d'avril, OpenAI, la compagnie mère de l'agent conversationnel ChatGPT, a publié une mise à jour de sa politique de confidentialité. La nouveauté? OpenAI y détaille comment les données de certains utilisateurs seront partagées avec des annonceurs dans le but de leur offrir des publicités personnalisées. Spécifiquement, la politique de confidentialité fait maintenant une différence entre les forfaits « free » et « go », soit les comptes gratuits ou à faible coût, et les comptes plus chers, qui ne recevront pas de publicité. Dans un courriel envoyé aux usagers, l'équipe d'OpenAI soutient que les renseignements personnels et les conversations avec ChatGPT seront privés et ne seront pas communiqués aux annonceurs. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'aucune information sur les usagers ne sera partagée avec les annonceurs, soutient Derek Ruth, professeur au département d'informatique de l'Université McGill et expert en sécurité et confidentialité numérique. Celui-ci souligne qu'OpenAI pourra utiliser ces données pour créer des segments d'utilisateurs, classés selon certaines caractéristiques, qui seraient ensuite partagées avec les annonceurs. Les utilisateurs pourraient, par exemple, être classés par localisation ou par caractéristiques démographiques. L'annonceur ne peut jamais identifier l'utilisateur à qui la publicité est présentée et ne peut pas identifier l'utilisateur qui clique sur la publicité, explique-t-il. Ou, du moins, ça rend plus difficile d'identifier l'utilisateur. C'est d'ailleurs ce modèle qu'utilisent plusieurs médias sociaux. OpenAI utilise les meilleures pratiques, pour autant que je sache, de la même manière que Meta ou Instagram, pour s'assurer que les annonceurs ne peuvent pas avoir d'informations uniques sur un utilisateur. Cependant, cette pratique de publicité segmentée n'est pas sans risque. Monsieur Ruth souligne que la quantité d'informations auxquelles a accès OpenAI pourrait permettre de créer des segments très spécifiques. La politique de confidentialité ne nous dit rien sur comment ils vont créer ces segments et à quel point ceux-ci seront nuancés. C'est là qu'on peut parfois commencer à flouter les limites de la quantité d'informations qu'on révèle. Si les segments deviennent très spécifiques, par exemple, s'ils visent des Montréalais qui vivent sur le plateau, qui aiment promener leur labrador au parc La Fontaine et qui ont de 30 à 32 ans, ce n'est pas une seule personne qui est concernée, mais c'est une tranche assez petite de la population, illustre-t-il. À travers ChatGPT, OpenAI a aussi accès à plus de renseignements sur ses utilisateurs, qui ont tendance à dévoiler de l'information personnelle à l'agent conversationnel. Le professeur trace un parallèle avec les moteurs de recherche comme Google. Pensons à la quantité de recherches personnelles qu'on fait sur des sujets médicaux ou sur des inquiétudes personnelles que nous avons. Ça a été démontré que les moteurs de recherche ont beaucoup d'informations personnelles sur nous, souligne-t-il. Pourtant, il ajoute que l'utilisation d'agents conversationnels présente des nuances. Nous confions bien plus de notre âme et de notre vie privée à ces chatbots, et de manière plus cohérente qu'à des moteurs de recherche. Pour Derek Ruth, ces précisions de la politique de confidentialité d'OpenAI ne sont pas une surprise, surtout pour les utilisateurs qui ne payent pas ou qui payent peu pour le produit. C'est l'adage de notre ère. Si vous ne payez pas un produit, vous êtes le produit. C'est juste une autre version de cela. Pour lui, il n'y a aucun doute que la plateforme va utiliser l'information récoltée sur les usagers pour leur envoyer des publicités visées. La seule raison pour laquelle les publicités ont du sens dans ChatGPT ou dans n'importe quel agent conversationnel, c'est qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils savent sur vous pour décider quelle publicité afficher. Il souligne cependant que la nouvelle politique de confidentialité ne présente pas, selon lui, de drapeau rouge ou de nouveautés comparativement à d'autres plateformes en ligne. Pour lui, c'est plutôt la présence de publicité dans ChatGPT qui est inquiétante. Il estime que la confiance que les usagers accordent à ChatGPT les rend particulièrement vulnérables aux publicités. Il y a des preuves solides qui indiquent que les gens leur font confiance et accordent beaucoup de poids à ce qu'ils se font dire, déclare-t-il. Déjà, ça soulève des questions. Mais ensuite, de lancer des publicités dirigées dans ce mélange, il y a plusieurs manières où ça pourrait devenir une source de danger pour les gens. En février, lors de l'annonce de cette nouveauté, OpenAI a assuré que les publicités ne seront pas diffusées dans des contextes liés à des sujets sensibles ou réglementés, tels que la santé mentale ou la politique. Les publicités sont aussi clairement identifiées comme du contenu commandité. Derek Ruth soutient que la nuance entre ce qui est ou pas une conversation sensible pourrait être difficile à définir. Il pourrait y avoir confusion quant à savoir si un produit est réellement recommandé, suggéré ou promu par l'agent lui-même en tant que partenaire de confiance, estime-t-il. Il y a beaucoup d'endroits où cela pourrait mal tourner. C'était « Comment ChatGPT va-t-il utiliser les données de ses usagers pour créer des pubs personnalisées ?» Un texte de Marieke Glorious-Trackman, publié le 1er mai 2026 dans Le Devoir.
Les fausses leçons de 1812. Un texte de José Boileau, paru le 23 avril 2026 dans la presse. Mark Carney s'est montré ferme face aux États-Unis à l'approche de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. « Nous ne recevons pas d'ordre des États-Unis », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne pensait pas à eux quand il se lève le matin. Un agacement qui suit son allocution du dimanche 19 avril 2026, où il a rappelé que le Canada avait déjà fait la guerre aux États-Unis, comme un autre premier ministre l'avait déjà fait avant lui. À l'automne 2011, Stephen Harper, premier ministre du Canada depuis 2006, mais enfin à la tête d'un gouvernement majoritaire, lançait en effet une opération inattendue, souligner le 200e anniversaire de la guerre de 1812 lorsque le pays avait dû faire face à une invasion américaine. Pour M. Harper, il était temps de reconnaître ce moment de l'histoire nationale. Comme l'énonce le communiqué présentant les festivités, « Cette guerre a jeté les bases de ce qu'allait devenir le Canada, c'est-à-dire un pays indépendant et libre, uni sous la couronne et respectueux de sa diversité linguistique et ethnique. Je n'ai plus souvenir de l'accueil que le Canada anglais avait réservé au bien fondé de cette annonce, si ce n'est de s'interroger sur l'argent dépensé pour les nombreuses festivités alors que des compressions s'appliquaient à certains secteurs, comme les archives nationales. Mais au Québec, bien des sourcils se sont levés. La guerre de 1812? Je ne connais pas. Laura Secor, l'un des personnages marquants de l'événement, était ici strictement associé à la chaîne vendant de délicieux chocolats. L'indifférence des Québécois était grandement prévisible, comme l'a alors noté la presse. Il faut dire qu'il y avait de quoi s'étonner quand on lit le communiqué de 2011. Si la guerre de 1812 s'était terminée autrement, l'identité francophone du Québec n'existerait pas et l'histoire des peuples autochtones aurait été profondément transformée. Depuis 1812, autochtones et francophones ont pourtant mené bien des luttes ici même pour que leur existence soit reconnue et respectée. Il reste que l'affection de M. Harper pour cet événement historique était alors apparue à plusieurs comme une lubie d'un conservateur au sens classique du terme, accroché au symbole militaire mais aussi monarchique d'un autre temps. Pour rappel, toujours en 2011. Il avait fait remplacer deux tableaux du grand peintre québécois Alfred Pellan par des portraits de la reine Élisabeth à l'entrée du ministère des Affaires étrangères à Ottawa et ordonné aux ambassades du Canada d'afficher dorénavant un portrait de la souveraine. 4 ans plus tard, Justin Trudeau arrivait au pouvoir avec un gouvernement majoritaire. Les deux Pellan ont aussitôt retrouvé le foyer des affaires étrangères et de 1812, il ne fut plus question. D'où ma surprise d'entendre le premier ministre Mark Carney en raviver le souvenir dans le cadre de son allocution aux Canadiens prononcée le dimanche 19 avril 2026 sur la très américaine chaîne YouTube. Il s'est toutefois mieux tiré d'affaire que Stephen Harper, à qui des historiens avaient reproché sa relecture de l'épisode. Cette fois, l'attention médiatique s'est limitée au symbole de la résistance aux Américains et à la figurine que le premier ministre avait à la main. Elle représente le général Isaac Brock, militaire britannique efficace et rassembleur, qui a remporté des victoires sur les Américains et qui est mort sur un champ de bataille du Haut-Canada 3 mois après le début de la guerre. M. Carney a expliqué que, pour lui, cette figurine était une source quotidienne d'inspiration, la preuve qu'unis, les Canadiens peuvent faire front, comme l'avaient alors fait les troupes britanniques auxquelles s'étaient joints des autochtones et des francophones. Mieux encore, avant même que le Canada n'existe sur papier, notre pays prenait déjà forme dans l'imaginaire de Brock, a précisé le premier ministre. Il a pu ainsi vaincre son puissant voisin. Sauf qu'il manque des morceaux à l'histoire de M. Carney. Ou plutôt, il la romance, comme il l'a fait auparavant lors de son discours des plaines d'Abraham, champ de bataille devenu, dans ses mots, le point de départ d'un partenariat entre francophones et britanniques. La guerre anglo-américaine de 1812, qui s'est conclue en décembre 1814 par le traité de Gand, porte en fait très bien son nom. C'est l'Empire britannique qui a triomphé du voisin américain, pas le petit Canada. Et si des Canadiens, comme on appelait alors les Canadiens français, se sont joints volontairement aux loyalistes, c'est par intérêt pour la chose militaire. C'est le cas de Charles-Michel de Salaberry, cité par M. Carney, non par souci identitaire collectif. Quant aux Autochtones, menés par le chef Tecumseh, aussi salué par le premier ministre, un article du magazine L'Action nationale, paru à l'époque des commémorations de M. Harper, a souligné qu'il n'avait pas participé au combat que pour défaire un ennemi commun. Jamais par adhésion à une identité, ni même à une souveraineté britannique ou canadienne, puisque leur but était un territoire indien indépendant, ou à la rigueur sous protectorat britannique. Ils ont d'ailleurs été les grands perdants du conflit, chassés ensuite de leurs terres des deux côtés de la frontière. Mark Carney, en fait, prouve à nouveau sa facilité à puiser dans les référents conservateurs alors qu'il est un chef libéral, les libéraux rattachant plutôt la naissance du nationalisme canadien à la Première Guerre mondiale. L'accent que son gouvernement met sur les dépenses militaires en fait aussi foi. Mais notre imaginaire collectif n'est pas habité par la guerre. Et nous avons d'autres armes pour irriter notre voisin du Sud. Boycotter son alcool, ne pas aller chez lui en voyage. Mieux encore, avoir un chef de gouvernement qui livre ses messages à la patrie ailleurs que sur YouTube. C'était « Les fausses leçons de 1812 », un texte de José Boileau, paru le 23 avril 2026 dans La Presse.
Enquête de projet collectif. Un texte de Jean-Philippe Giroux, paru le 17 avril 2026 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. La pensée de groupe est un phénomène sociologique qui touche tous les groupes de toutes les époques, mais est particulièrement présente dans des contextes où il y a beaucoup d'homogénéité. Quand la cohésion mène à une peur de froisser les esprits, pour maintenir la paix et l'harmonie à tout prix, les conséquences peuvent être significatives. Dans certains cas, il y a une réduction de la créativité, une détérioration des relations, des prises de décision moins optimales, etc. La beauté des projets collectifs, c'est qu'ils unissent des voix divergentes, ouvertes dans l'espace public au débat, aux conflits et aux désaccords pour faire avancer des objectifs communs. Le webzine Aster, lancé le 26 mai 2013, en est un bon exemple. Il a pour mission de créer un espace de débat en français qui vise tant à informer qu'à favoriser les échanges d'idées et les découvertes culturelles. Cette initiative acadienne, il n'y a aucun équivalent à ma connaissance, ailleurs en francophonie canadienne, n'est plus active depuis 2 ans, ce qui est dommage. Il serait triste de le voir disparaître au profit de nos comptes individuels. Plus de 3 espaces, physiques, amusants et accueillants, pourraient faciliter le dialogue et le travail en tandem. Pensez aux cafés, aux espaces de répétition, aux agora, etc. Des espaces plus que transitoires qu'on peut habiter temporairement et naturellement avec des gens de divers horizons. Des espaces à valeur sociale, pas seulement monétaire. Oui, il est formidable d'avoir des écoles, des garderies et des centres communautaires, mais on ne peut pas tout mettre sur leurs épaules pour faire fleurir les relations et les projets. Remontons dans le temps. La coopérative des artistes du Nouvel Ontario a fait naître à Sudbury une tradition locale de théâtre communautaire. La nuit sur les temps et les arts dans la communauté française de l'Ontario. Ce fut un incubateur d'innovation artistique et culturelle, né d'un besoin de rassembler des gens de différentes identités autour d'un objectif commun. Tout le monde contribuant selon ses talents et ses compétences. Peut-être que ce projet est le produit de son époque et difficilement reproductible. Toutefois, l'idée de la coopérative demeure intéressante pour comprendre l'impact positif des projets collectifs. Tellement de choses se sont déroulées à cette époque, avec des retombées qu'on ressent encore aujourd'hui. Il y a plein d'exemples modernes du succès du travail coopératif, notamment avec la Bikerie de Moncton, pour les amateurs de vélo, de la durabilité et de la réparation. Rad Storm, un espace collectif d'Halifax pour l'éducation et les arts, et les projets littéraires, comme le recueil bilingue Grosse Fugue, basé à Montréal. L'engagement communautaire prend de l'ampleur en parlant, mais aussi en se regroupant autour de projets collectifs qui nous passionnent, qui nous titillent, mais aussi qui nous challengent. Et il en existe sûrement déjà près de chez vous. Il faut juste aller les joindre ou en créer de nouveaux. C'était « Enquête de projets collectifs », un texte de Jean-Philippe Giroux, paru le 17 avril 2026 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Les Québécois jettent du plastique et d'autres matières recyclables dans la nature. Un texte d'Alexandre Shields paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Une étude de Recycle Québec révèle que 87% des déchets ramassés le long des autoroutes sont recyclables, majoritairement des plastiques. Le plastique est aussi très présent parmi les déchets retrouvés sur les rives de cours d'eau.
près de 400 000 tonnes de matières recyclables provenant des collectes municipales sont envoyées au dépotoir chaque année. Même si les Québécois se disent préoccupés par l'environnement et l'importance du recyclage, ils continuent de jeter des quantités importantes de déchets par la fenêtre de leurs véhicules, mais aussi directement dans les cours d'eau, révèle une première étude de Recycle Québec dévoilée mardi le 10 mars 2026. Sondage après sondage, les Québécois affirment en grande majorité qu'ils recyclent les matières résiduelles qui peuvent être détournées des dépotoirs, mais aussi qu'ils sont sensibilisés aux impacts néfastes de la pollution. Or, un portrait inédit des déchets qui se retrouvent le long des autoroutes et sur les rives des cours d'eau des régions les plus peuplées de la province démontre que plusieurs personnes continuent de se débarrasser de leurs déchets, dont bon nombre de matières pourtant recyclables, directement dans la nature. Une étude réalisée par Recycle Québec, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et Mission Milton, a ainsi permis de ramasser 4,3 tonnes de déchets le long des autoroutes 15, 20, 30, 40, 55 et 440 dans les municipalités de Laval, Drummondville, Beaumont, Montmagny, Sainte-Julie, Varennes, Yamachiche, Masquinongé et Trois-Rivières. L'analyse de ces déchets a permis de constater que 87% des matières dénombrées étaient recyclables et que 54% des matières étaient du plastique. Sans surprise, il s'agit essentiellement de plastique provenant de produits de consommation courante lorsqu'on est sur la route, soit des emballages, des contenants divers, des sacs, des bouteilles, etc. Les photos provenant du rapport publié par la Société d'État montrent beaucoup de contenants de café de commerce bien connus. Le plastique est également bien présent parmi les 2,5 tonnes de déchets retrouvés sur les rives de divers cours d'eau, dont le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-François et la rivière Saint-Charles. Selon les données comptabilisées après analyse des déchets, 80% des matières étaient recyclables et 44% étaient du plastique. Vice-président Opérations et Développement chez Recycle Québec, Francis Vermette, constate sans détour qu'il y a encore beaucoup de matières jetées dans l'environnement, et ce, même si le recyclage est présent dans le quotidien des Québécois depuis plus de 35 ans. Selon lui, les solutions pour faire les choses autrement sont d'ailleurs très accessibles. Les résultats sont parlants. Le plastique est omniprésent et plusieurs autres matières trouvées pourraient être recyclées ou récupérées. Nous avons une responsabilité individuelle et collective de bien gérer nos déchets à la maison comme dans les lieux publics et à l'extérieur. Faisons ce pas important pour protéger nos milieux naturels et réduire la pression sur l'environnement, résume pour sa part Emmanuelle Guéhin, présidente directrice générale de Recycle Québec, dans une déclaration qui accompagne l'étude. Le recyclage au dépotoir. Au-delà des déchets et matières recyclables jetés directement dans la nature, les Québécois produisent en moyenne près de 1500 livres de déchets par habitant par année, selon le plus récent bilan officiel de Recycle Québec, soit celui de 2023. Le Québec est donc toujours loin de la cible de production de déchets par habitant, qui était de 525 kg annuellement en 2023. Année après année, les Québécois continuent d'ailleurs d'envoyer des centaines de milliers de tonnes de matières recyclables directement dans les dépotoirs de la province, selon ce qui se dégage des données officielles. En tenant compte de l'ensemble des secteurs, municipal, institutionnel, commercial et construction, on parle de 1,36 million de tonnes uniquement en 2023, le plus récent bilan disponible, dont 521 000 tonnes de papier et carton, 511 000 tonnes de plastique, 243 000 tonnes de métal et 82 000 tonnes de verre. Les quantités de verre, de métal et de plastique envoyées à l'enfouissement sont d'ailleurs en hausse depuis 2019. À titre d'exemple, sur les quelque 1,2 million de tonnes de matières recyclables qui auraient pu être récupérées par les collectes municipales en 2023, 34% ont plutôt été envoyées directement au dépotoir, soit environ 400 000 tonnes. Une fois au centre de tri, 28% des matières sont rejetées, entreposées ou non recyclées. Au bout du compte, ce sont donc 587 000 tonnes de matières qui sont par la suite acheminées pour être recyclées, soit 48% des matières qui pourraient être récupérées par les collectes municipales. Il s'agit d'un bilan semblable à celui de 2021, où le taux atteignait 47%. Ce taux est plus élevé pour le papier et le carton, 71%, mais nettement plus faible pour le plastique, 21%, et le verre, 23%. Par ailleurs, plus de 6 millions de tonnes de matières résiduelles ont été envoyées dans les dépotoirs en 2023, contre 6,2 millions en 2022 et 6,1 millions en 2021. Cela équivaut à près de 16 440 tonnes par jour. L'économie du Québec transgresse les limites planétaires. Notre modèle économique, linéaire, basé sur une surconsommation de ressources, transgresse les limites environnementales planétaires, constate un document publié en 2024 par Recyc-Québec. Dans l'ensemble, le Québec est responsable d'une importante empreinte matérielle de 271 millions de tonnes de ressources par année, soit 32 tonnes par habitant, ce qui dépasse largement la moyenne à l'échelle mondiale. Cette réalité découle, selon l'étude, du fait que la province a un niveau de circularité relativement faible, puisqu'à peine 3,5% de l'économie est considérée comme circulaire, c'est-à-dire lié à un système de production et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service. La moyenne mondiale est de 7,2%. À titre d'exemple, un Québécois moyen consomme plus de 570 litres d'eau potable par jour par rapport à 130 litres par jour en France, ce qui implique un dépassement de 86% des limites sécuritaires. C'était « Les Québécois jettent du plastique et d'autres matières recyclables dans la nature », un texte d'Alexandre Shields paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir.